comment donc, bah, merci Lucie pour aujourd'hui, c'était de parler.
Je vais laisser la parole à Diego Landivar, qui est directeur de l'Origins Media Lab, et qui va nous parler d'un projet de recherche sur la redirection écologique. Diego, je vous laisse la parole.
Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Lucie Marinier pour cette invitation au programme ICAR, bien évidemment, et cette initiative assez intéressante sur un concept qu'on aime beaucoup chez nous, qui est le concept de redirection écologique, que nous avons essayé de proposer au débat il y a quelques années dans un livre qui s'appelle « Héritage et fermeture », qui a pas mal circulé dans les sphères des politiques publiques, beaucoup dans l'urbanisme, dans l'architecture, mais aussi justement dans la culture. Je ne sais pas comment on peut passer au PowerPoint, mais ça sera fait dans quelques instants. Moi je représente une équipe de recherche qui s'appelle Origins Media Lab, qui est à Clermont-Ferrand, et qui travaille justement sur l'adaptation, la redirection écologique des organisations, des institutions, des politiques publiques en règle générale, et qui justement propose d'aller un petit peu plus loin que les questions de transition. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Donc j'ai intitulé cette petite présentation sur le fil du rasoir, parce que effectivement, lorsqu'on parle de redirection écologique, on soulève des questions qui sont un peu épineuses, parce que vous allez voir, on évoque et on invoque des questions de renoncement, d'arbitrage et d'échelle que je vais essayer d'expliciter. Et le choix de la photo n'est pas une erreur, encore une fois, informatique. C'est parce que une des premières enquêtes que nous avons réalisées, nous venons de Clermont, était sur les stations de ski. Vous allez comprendre un petit peu la relation qui n'est pas évidente tout de suite entre établissements culturels et stations de ski. Je voudrais d'abord présenter donc ce projet-là qui est financé aujourd'hui par un programme Alternative Verte 2, ministère de la Culture France 2030, et qui regroupe un certain nombre d'établissements, la Friche Belle de Mai, Universcience, avec qui nous avions déjà travaillé il y a quelques années pour un rapport sur l'adaptation et la redirection des musées de sciences dans l'Anthropocène. Le Citron Jaune, qui est un CNAREP qui est situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le musée de Grenoble et dans un autre registre, le Muséum d'histoire naturelle. Donc c'est tout un consortium, puis nous qui avons proposé ce projet qui est structuré sur 3 ans. Et la première année vient de se finir, une première année qui a été consacrée à l'enquête sur justement ces attachements, ces dépendances dans les milieux culturels, dans le secteur culturel, dans une perspective d'adaptation et de redirection écologique. Alors pour commencer, nous on aime beaucoup partir d'un concept qui est aujourd'hui proposé par la géologie, qui est le concept de technosphère. Et la technosphère est assez intéressante parce que c'est un concept que les géologues aujourd'hui utilisent pour quantifier la somme des équipements, infrastructures, objets matériels de notre monde. Et là, par exemple, là, tout de suite, dans cette salle, nous sommes au milieu d'une technosphère avec des câbles, du ciment, de l'acier, du verre, pas mal de produits plastiques qui sont tous, en fait, issus de cette technosphère, c'est-à-dire d'une certaine artificialité qui est vraiment la caractéristique propre de notre ère contemporaine. Et cette technosphère, les géologues nous disent, elle est devenue tellement massive qu'elle pèse aujourd'hui 5 fois à peu près le vivant sur Terre. Et donc aujourd'hui, la Terre n'est plus simplement une biosphère, une cryosphère, une biosphère, une lithosphère, par exemple, une atmosphère. C'est tout ça, plus une énorme technosphère qui devient de plus en plus importante. Et bien évidemment, comme l'a été dit par Lucie en introduction tout à l'heure, la culture est une énorme technosphère aussi, parce que c'est des énormes bâtiments, c'est une quantité innombrable d'équipements matériels, d'artefacts, d'objets techniques qui sont utiles, qui sont utilisés aujourd'hui dans la culture. Merci aussi à Laurence qui a fait une très bonne introduction. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais effectivement, nous, on fait un contraste assez œcuménique, parce que nous ne sommes pas opposés à la transition écologique, mais simplement pour vraiment montrer les contrastes entre transition et redirection. En fait, dans la transition, il y a, d'une certaine manière, on considère que on peut à peu près garantir les mêmes niveaux de production, les mêmes niveaux d'action dans notre monde actuel, et que simplement la priorité, c'est de rendre les choses propres, durables, écologiquement responsables, et ainsi de suite. Et donc, les domaines d'action principaux de la transition, ce sont les choses que l'on connaît d'habitude beaucoup, c'est la rénovation des bâtiments, c'est l'isolation, c'est l'économie circulaire, et c'est notamment la grande transition énergétique. Et ça, c'est la transition énergétique, d'une certaine manière, on vous renvoie à cet imaginaire qu'on va à peu près tout pouvoir garder, faire à peu près les mêmes choses, hein, à quelques degrés près, en réussissant justement cette transition absolument magique entre des énergies qui étaient sales, fossiles, carbonées, polluantes, vers une structure énergétique qui sera vertueuse, fossile, neutre finalement sur le plan écologique. Et donc là, la transition débouche souvent sur des paradigmes de l'optimisation, du solutionnisme technologique, de l'efficience, efficience énergétique, efficience bâtimentaire, etc., etc. Dans la redirection, on prend acte radicalement du diagnostic climatique écologiquement, et on considère que ce diagnostic nous est aujourd'hui imposé, c'est-à-dire que les limites biophysiques de ce qui est soutenable ne sont pas, malheureusement, on pourrait presque dire, négociables, et qu'il faut passer à un niveau supérieur, qui est celui, justement, de pouvoir agir sur des échelles, sur des volumes, sur des quantités, mais aussi sur une transformation assez forte des usages, des activités, des stratégies, des missions que l'on a dans, finalement, des finalités de ce que l'on fait dans notre monde aujourd'hui. Et donc, appliqué à la culture, bah, ce sont les usages de la culture, ce sont les missions de la culture, et que finalement, le changement d'époque géologique et climatique que nous vivons ne peut pas simplement laisser indemne les missions traditionnelles qui sont absolument nobles et magnifiques de la culture, son universalisme, son accessibilité, son rôle dans la transformation, dans l'éducation citoyenne, etc., etc., qu'il y a des choses qui vont quand même malgré tout changer. Quand même. On ne peut pas dire que le monde va bouleverser, que tout va être changé, sauf d'une certaine manière la culture. Et donc tout ça débouche justement sur des prises qui sont liées à des renoncements, à des arbitrages, des réaffectations, mais pas que justement, c'est pas que des imaginaires de restrictions, mais aussi à des réaffectations, des redirections qui sont extrêmement créatives et intéressantes lorsqu'on imagine qu'on va vivre dans des univers justement contraints. Alors pour problématiser un peu la question, quand on a démarré nos enquêtes sur les questions culturelles, lorsqu'on avait interrogé notamment un directeur d'un très très grand établissement culturel de la musique, de la production musicale en France, et il nous disait bah, la culture par définition ne peut pas se relocaliser. Si on renonce à la circulation des œuvres, des artistes, de l'art, de la musique, etc., c'est la victoire de la culture identitaire repliée sur elle-même. Et il disait, ce n'est pas comme l'alimentation ou les mobilités ou l'avion, par exemple, où, bien évidemment, il faut renoncer à ces choses-là qui sont incompatibles, mais la culture ne peut pas se relocaliser, ne peut pas se rediriger d'une certaine manière, que c'était incompatible avec sa mission fondamentale, émancipatrice, civilisationnelle, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le message au sérieux, et on se déplace sur d'autres enquêtes que nous avons réalisées, on peut passer à la prochaine, on se retrouve par exemple avec un pilote d'avion que nous avions interviewé pour un ouvrage, qui nous disait bah, renoncer à l'avion, c'est renoncer à la rencontre avec l'autre, c'est renoncer au voyage exploratoire, c'est renoncer par exemple au voyage pour les scientifiques qui explorent le monde. Sans nos avions ou les aéroports, il n'y a pas de sommet pour le climat, il n'y a pas d'économie. Donc lui, il disait, mais si on renonce à l'avion, pareil, c'est magnifique, quoi, l'avion. C'est ce que permet l'avion. C'est absolument fondamental comme mission civilisationnelle, émancipatoire, cosmopolite, etc., etc. Et si vous allez interroger, par exemple, les syndicats de chez Michelin, ce qu'on a fait en 2022, ils vous disent, mais le SUV, pour nous, c'est fondamental. Parce que sans le SUV, il n'y a plus d'industrie automobile européenne, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien. Donc, on se rend compte, y compris, par exemple, chez les chefs gastronomiques qui vous disent « Moi, je me méfie des avatars de la relocalisation, la gastronomie doit circuler aussi, etc. etc. » Donc finalement, si on prend au sérieux tous les acteurs ont le même à peu près argumentaire et vont considérer qu'une certaine manière, leur champ d'activité est extérieur parce que protégé par des attachements sacrés, par des missions sacrées, etc. Et ça, c'est un petit peu... Le rôle de notre méthode d'enquête en redirection écologique, si on passe à la prochaine slide, s'il vous plaît, c'est qu'il faut comprendre les conditions politiques, sociales de la redirection écologique. Alors, comme je disais, la redirection est une prise au sérieux radicale des limites biophysiques. On ne peut pas les négocier. La redirection n'est pas une forme déguisée de privatisation ou démantèlement financier et politique de la culture. Ça, c'est un point très important. La redirection se confronte au réel des attachements, des dépendances, des contraintes dans lesquelles les acteurs de la culture sont pris. Et c'est ça la double radicalité à travers laquelle on doit arriver à passer, c'est-à-dire que les acteurs sont extrêmement attachés à leur culture, à leur pratique de travail, à leurs établissements, à leurs infrastructures, à leur programmation, à leurs événements, à leurs projets culturels, etc. Et en même temps, il y a une autre radicalité qui est celle des limites biophysiques. Et donc, il faut passer dans ce petit chemin de traverse qui est extrêmement fin. Et donc, la redirection dit il faut partir nécessairement d'une enquête sociale, comme on le disait auparavant, pour redignifier cette forme de compréhension très fine des structures dans lesquelles les acteurs sont pris lorsqu'il va falloir justement prendre des chemins peut-être plus compliqués. Et ces attachements, ce qu'on appelle nous les attachements, ce sont des attachements économiques, financiers, c'est des attachements professionnels, des attachements à des cultures techniques, matérielles, à des pratiques de travail, c'est des dépendances aussi énergétiques et matérielles, des dépendances logistiques, contractuelles, réglementaires, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que nous avons opéré dans la culture. Et on l'a déjà fait sur les infrastructures sportives, on l'a fait sur l'avion, on l'a fait sur plein de registres. Et là, sur la culture, c'était assez intéressant parce que une enquête sociale dans la culture, c'est destiné, selon nous, à procurer aux acteurs concernés de la culture des outils qui leur permettent de s'identifier eux-mêmes, de déployer des concernements écologiques et de définir les intérêts que les acteurs ont dans l'anthropocène. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la redirection écologique dit il faut vraiment comprendre en détail, en finesse, à quoi les gens tiennent lorsqu'ils sont soumis à des perturbations écologiques et climatiques aussi radicales que celles que nous venons de l'évoquer en début de séance. Et donc, nous sommes partis pendant... plus d'un an maintenant, depuis qu'on a démarré l'enquête à Universcience, ça fait déjà 3 ans, une enquête sur justement les conditions. Est-ce que les gens, est-ce que les acteurs de la culture sont capables d'entendre la redirection, les questions d'arbitrage, de renoncement, vraiment poser cette question frontale dans la culture. Et on a, justement, si on passe deux fois, pardon, j'avais oublié de le dire, donc cette enquête démarre sur des controverses que je vais vous présenter ici, on peut passer, avec 10 principales questions que nous avons enquêtées dans le milieu culturel. Premièrement, comment les acteurs perçoivent-ils la croissance, le volume, les échelles, le nombre de projets portés par les établissements culturels depuis 30 ans? Parce que ça, c'est un débat qui est un peu en latence, mais qui désormais commence à devenir importante. Et on a interrogé les muséographes, les conservateurs, les programmateurs, les festivaliers, etc., sur leur capacité à entrevoir leur relation à la croissance exponentielle des œuvres, des collections, des réserves, des projets culturels, des expositions, etc., etc. Et donc, à chaque question, je vais vous les lister après, On a, mais ça je n'ai pas le temps de le présenter, mais on le présente bientôt dans un rapport d'orientation. Nous avons détecté, on peut passer à la slide prochaine, nous avons détecté plusieurs nuances de si on peut passer s'il vous plaît, à plusieurs nuances de réponse ou de nuances de positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent non, la croissance de la culture est absolument essentielle, parce que derrière la croissance des projets, des œuvres, des collections, de la circulation, du nombre de festivals, etc., il y a la mission fondamentale de la culture, c'est-à-dire agrandir le périmètre d'accessibilité, d'universalité de la culture, et ainsi de suite. Pour d'autres, ils vont vous dire, mais la croissance économique de la culture, c'est absolument essentiel, parce que derrière la croissance économique, il y a l'autonomie politique de la culture. Et donc, on est obligé de faire grandir les musées, les publics, etc., parce que derrière ça, il y a les conditions d'une indépendance financière à terme, alors qu'on sait très bien que les temps sont troubles, que les temps politiques sont troubles, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est pas des attachements fondamentaux à la croissance pour la croissance, mais c'est parce que la croissance permet les missions fondamentales de la culture, etc. Mais aussi, il y a des perspectives clairement décroissante, c'est-à-dire des personnes qui disent « non, c'est trop ». Les contraintes au travail, les pratiques de travail sont aujourd'hui mises en péril, sont en criticité, et on fait trop de choses, on fait trop de programmation, on fait trop d'expositions, et donc il faut réduire, il faut ralentir, etc., etc. D'autres qui vont dire « mais cette décroissance, c'est pas nous qui l'avons choisi, elle est subie ». C'est-à-dire que quand vous avez le prix du pétrole à je ne sais pas combien d'euros ou du kérosène, ben nécessairement on est obligé de planifier des décroissances. Si on revient juste avant à la slide précédente, nous avons identifié ce type de nuances autour de plusieurs questions. La deuxième question, les acteurs sont-ils prêts ou en capacité à renoncer à leurs infrastructures énergétiques, bâtimentaires, logistiques? Avec le diagnostic, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, sincèrement, foncièrement, financièrement, politiquement, parce que les collectivités territoriales sont capables de maintenir le patrimoine gigantesque culturel qui est actuellement en œuvre. Donc là aussi, il y a des positions très, très nuancées. Troisièmement, les établissements culturels sont-ils en capacité d'épouser de nouveaux modèles économiques? Parce qu'on sait qu'en Anthropocène, dans les changements climatiques, la question du modèle économique va être absolument centrale. Et elle est très souvent évacuée par beaucoup de personnes, parce qu'on a cet imaginaire fondamental qui consiste à dire, bah nécessairement, si on ouvre la boîte du modèle économique, c'est boum, privatisation, fin du public, fin de l'espace public, de la culture publique, etc., etc. Alors que justement, il y a peut-être d'autres espaces sur des modèles différents, coopératifs, des communs, etc., qui sont aujourd'hui au taquet pour proposer des alternatives. Quatrièmement, est-ce que les établissements culturels sont-ils en capacité d'interagir avec le vivant? Ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans la redirection, on peut se dire mais c'est génial, les établissements culturels vont devenir des superbes refuges de biodiversité. Grand truc à la mode, grand slogan à la mode, ce qui est absolument génial, les expériences sont formidables là-dessus. Mais quand vous interrogez les directions techniques, quand vous interrogez la maintenance, quand vous interrogez tous les services qui sont en support de cet nouvel impératif écologique de reconnexion au vivant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui sous-estimés. Et typiquement, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais ok, ouvrons-nous refuge du vivant pour tous les établissements culturels, mais dans ce cas-là, il faut embaucher des jardiniers, il faut embaucher des personnes qui s'occupent des animaux, il faut s'occuper bien évidemment, du nettoyage, il faut prendre le truc au sérieux. Est-ce que les établissements culturels ont la capacité? Donc là aussi, des injonctions qui sont tout d'un coup relativisées par les pratiques de travail et ainsi de suite. De la même manière, dans quelle mesure les établissements culturels diversifient leurs usages pour répondre aux besoins écologiques du territoire? Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu tout un paradigme de l'ouverture, ouverture architecturale. On ouvre les musées, on ouvre les établissements culturels, aux usages tactiques, aux usages non planifiés. Tout d'un coup, débordement de ces usages non planifiés. Et tout d'un coup, c'est qui en souffre? Ben, c'est les équipes. Donc c'est pas anodin. On ne peut pas lancer simplement des injonctions de ce type-là sans prendre en considération, là aussi, toutes les conséquences organisationnelles, managériales, sensibles en termes de disponibilité technique, mentale des acteurs, dans toute la chaîne de conséquences dans une organisation. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a plein de questions qui sont sorties de notre enquête. On pourra en reparler si vous voulez. On va passer à la suite. En fait, on peut passer deux fois en slide. Voilà. On arrive à des héritages. En fait, quand on fait une enquête sur la redirection dans le secteur culturel, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'héritages, et notamment des héritages infrastructurels que beaucoup d'établissements subissent, sur lesquels ils n'ont pas beaucoup de prise. Donc c'est par exemple les flux, les mix énergétiques des établissements, c'est les bâtiments, c'est les contraintes réglementaires, et ainsi de suite. Puis ensuite, il y a les héritages stratégiques. Parfois, ils n'ont pas vraiment beaucoup la main. Donc c'est les missions que l'on donne à tel ou tel établissement. C'est la gouvernance, qu'on ne peut pas vraiment changer radicalement lorsqu'on s'installe dans une présidence, par exemple. C'est les modèles économiques aussi. Puis ensuite, il y a les héritages organisationnels. Les volumes de production, les modes de production, les conditions de travail, les cultures matérielles, les pratiques de travail. Puis ensuite, les héritages relationnels, parce que l'établissement culturel hérite à chaque fois d'interactions écologiques, d'usages traditionnels planifiés ou non planifiés tactiques, et ensuite des relations partenariales. On peut passer, s'il vous plaît. Et donc, la redirection, nécessairement, lorsque vous la mettez en œuvre, peu importe par quelle porte, ici, vous entrez dans la redirection, vous allez fabriquer des pressions très fortes sur le reste des entités d'un établissement culturel. Par exemple, si on dit « je refuse aujourd'hui », comme c'est le cas à la friche de Belle de Mai, si on veut la rénover, nickel, faire un bâtiment... 2030, nickel, bien isolé, bien rénové, écologiquement neutre, parfait, c'est 30 à 40 millions d'euros. Personne n'a l'argent pour le faire. Et en plus de ça, si vous faites ça à la friche Belle de Mai, ce n'est plus la friche Belle de Mai, hein. C'est autre chose. Hein. C'est un espace de coworking, pour actif, enfin, c'est un autre shift stratégique. Donc ils ont bien compris que la transition, la promesse de la transition, n'était pas foncièrement la plus pertinente. Et surtout, encore une fois, mettre 30-40 millions d'euros, c'est quand même pas anodin dans les temps actuels. Surtout qu'il y a une crise du fonctionnement beaucoup plus critique que la crise d'investissement dans la culture, dans certains cas. Et donc là, en l'occurrence, si tu décides de vivre dans les décombres un peu de ton héritage bâtimentaire, industriel, etc., bah nécessairement, tu vas mettre en pression les conditions de travail potentiellement des acteurs. Parce que tu es en train de refuser d'isoler nickel, nickel, nickel le truc. Et ce que tu fais, c'est plutôt proposer du nomadisme au sein de la friche, par exemple, pour aller travailler dans d'autres endroits. Donc c'est pas évident. Mais voilà, tu peux détériorer les conditions de travail, mais tu peux aussi détériorer les relations au public ou l'accueil des publics, par exemple. Et donc il y a des coûts, quoi. Il y a des pressions, etc. On peut passer. Mais en même temps, quand on fait ça, quand on met des pressions, de l'autre côté, on libère des espaces. Et donc, on fait des décompressions qui permettent de penser des réaffectations. Et donc, typiquement, si on fait des redirections infrastructurelles ou bâtimentaires, on peut beaucoup plus aisément s'ouvrir aux interactions écologiques avec le vivant, en laissant des espaces justement sauvages, y compris sauvages dans les établissements. On peut aussi déployer des usages tactiques hyper intéressants. On peut développer potentiellement d'autres modèles économiques avec l'agriculture, avec l'hospitalité vis-à-vis du voisinage et ainsi de suite, d'autres cultures matérielles. Donc, toute la question, et là je souscris complètement à ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est qu'il y a en fait un enjeu de quantification justement de ces coûts et de ces bénéfices, entre guillemets, d'un programme de redirection, de renoncement, de réaffectation, de créativité institutionnelle à ce niveau-là. On peut passer. Et donc, nous, on a essayé d'un petit peu commencer à répertorier toutes les initiatives qui peuvent être intéressantes en termes de redirection écologique. Et on est allé un peu partout dans le monde capter ces expériences à la fois doublement radicales, encore une fois, pour le dire ainsi. C'est-à-dire qui vraiment agissent sur les questions de volume, d'échelle, les questions stratégiques, et de, donc de redirection, et en même temps qu'ils prennent soin justement de pouvoir bien hériter, de bien prendre en considération les attachements des acteurs pris dans ces héritages. Et donc typiquement, par exemple, le Parc Explore, qui est un musée de science en Colombie, a décidé la redirection de l'aquarium qu'ils ont chez eux. Donc un aquarium très classique, aquarium avec toutes les espèces du monde, avec la mission culturelle, les enfants colombiens ont droit à l'accès universel de la culture scientifique, notamment océanographique. Donc ils venaient venir des espèces de partout, et c'était l'aquarium moderne, design, etc. S'est posé la question, donc qui est venue, par quel bout est venue ici, bah, c'est la contestation écologique de jeunes qui ont dit « Non mais c'est quoi cet aquarium qui n'est pas compatible avec les questions planétaires actuelles, avec les engagements écologiques ?» Et donc, ils ont décidé de rediriger l'aquarium, donc c'est très concret, hein, c'est un espace, une entité matérielle, un aquarium. Et donc, ce que l'on fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de justement proposer un autre modèle finalement, où on va conserver dans cet aquarium les espèces en voie de disparition, en Colombie. Donc là, l'attracteur n'est plus l'universalisme océanographique, mais c'est la criticité de la problématique colombienne liée aux espèces locales, avec une prévision de fermeture à long terme de cet espace-là, parce que dans tous les cas, ils n'auront pas la possibilité de pouvoir le tenir à long terme. Parce que c'est trop de maintenance, parce que c'est trop d'eau, parce que c'est trop d'intrants malgré tout à utiliser, etc. Donc vous voyez, c'est une sorte de fermeture intelligente des choses, un renoncement progressif des actions qui est entreprise là-dessus. On peut passer au cas suivant. Ça provient de l'enquête que nous avons faite, notamment à la Cité des Sciences, parce qu'à la Cité des Sciences, il y a eu une redirection extrêmement intéressante, qui ne se disait pas redirection, mais qui pour nous est extrêmement intéressante. Parce que la Cité des Sciences, et comme vous le savez, est un établissement quand même gigantesque, et qui a été submergé par la crise des migrants, puis ensuite la crise du crack, etc. Et là, tout d'un coup, la Cité des Sciences, plutôt que se dire « Non, mais ici, c'est un musée de sciences, toutes ces problématiques de anthropocène réel, quoi, c'est-à-dire de débordement critique, de vraiment, là, on est dedans, quoi. Et c'est une crise d'habitabilité. Plutôt que de dire « Non, ici, ils n'ont rien à faire, ces usages n'ont pas de droit de cité », ben, on va rediriger justement une compétence interne qui est la médiation culturelle, scientifique et culturelle, pour la mettre au service de cette crise d'habitabilité. Et ils ont créé justement la cité de la santé, ils ont requalifié les missions, par exemple, de la bibliothèque, qui est un espace absolument génial, comme dans beaucoup de bibliothèques. Le travail de Joël Lemarec est absolument génial là-dessus, pour montrer à quel point les bibliothèques sont des sentinelles, en fait, de l'habitabilité. Et donc, typiquement, là, c'est une prise en charge d'une crise par le musée, c'est-à-dire le musée considère qu'il doit agir sur une crise d'habitabilité. Bien évidemment, on est dans un cadre tout à fait cohérent avec ces questions, à la Gaieté Lyrique, et ça renvoie justement à cette question de l'ouverture des questions d'habitabilité, elle n'est pas du tout anodine. Et beaucoup d'acteurs vous disent « Oui, mais ce n'est pas aux établissements culturels de devenir des hôpitaux, de devenir des médecins, de devenir des spécialistes de tel ou tel champ qu'on ne maîtrise pas. » Et justement, typiquement, au Brésil, il y a les fameux CES qui sont des tiers-lieux complètement dingues où il y a art, culture, habitabilité qui se mélangent depuis des années. Et par exemple, à São Paulo, vous avez un énorme tiers-lieu, un des plus gros tiers-lieux du pays, où depuis très longtemps, il y a des cliniques odontologiques parce que il y a une vraie crise, en fait, de ce service public-là au Brésil. Et donc le musée n'a pas eu de problème à se dire, mais en fait, l'établissement culturel n'a pas eu de problème à dire, mais bien évidemment, là, il y a un besoin territorial fondamental. Bien évidemment, on ne va pas tout intégrer dans notre scope d'action, mais celui-là n'est pas pris en compte par personne. Et donc plutôt que de subir un débordement social, politique, qui justement met en péril les conditions de travail, met en péril la cohérence stratégique d'un établissement, et on dit, ce besoin-là, on va le prendre en considération, et on va le prendre en considération jusqu'au bout, et bien, techniquement bien. Donc voilà un petit peu pour Sao Paulo. On peut passer avec d'autres exemples, mais je reviendrai s'il y a des questions. On peut encore passer, s'il vous plaît. Bien évidemment, il y a le faire sans qui aujourd'hui est en train d'éclore, c'est-à-dire vraiment conditionner la production, non pas à une virtuosité écologique, mais carrément à des limites ou à des contraintes écologiques qui ne sont pas négociables. Et l'expérience justement du théâtre Malakoff, enfin du centre d'art contemporain de Malakoff est assez intéressant à suivre. On peut passer. Le citron jaune est assez intéressant aussi parce que le citron jaune est dans une situation presque post-anthropocénique, post-effondrement. C'est un des territoires les plus pollués de France. Et là, toute la question de la mission d'un centre culturel est complètement redéfinie par les débordements sanitaires, écologiques auxquels ils sont confrontés. Ça permet justement de bien comprendre qu'il y a des formes de musées sentinelles qui doivent être opérées. On peut passer, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans le détail des questions d'aliénation écologique et de conservation. Ça a été déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. On peut passer, s'il vous plaît. Là, on va passer aussi. On passe beaucoup de choses. Un exemple justement de redirection des pratiques de muséographie. Avec la Cité des Sciences, on a travaillé un système justement où, par exemple, la Cité des Sciences allait conditionner les formes, la temporalité des expositions à la disponibilité d'une forêt et donc à la disponibilité des types de matières premières qu'il pouvait y avoir et ainsi de suite. Donc l'idée, c'était justement de pouvoir ancrer, d'annexer les formes de production culturelle, d'exposition, d'événementiel, à des limites biophysiques qui étaient capables de rendre, par exemple, avec une forêt partenariale quoi, pour la Cité des Sciences. On peut passer, s'il vous plaît. On va aller jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors, donc, finalement, aboutir à quoi tout ça? Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à la question essentielle qui est la suivante. Quel processus de redirection pour quelles conséquences? Donc ça nous amène à identifier les options possibles et les traduire en des expériences concrètes, identifier les redirections qui génèrent le plus de pression ou de perturbation, quelles sont les plus risquées socialement, matériellement, financièrement, identifier les redirections qui génèrent le plus de décompression et de réaffectation, puis ensuite identifier les redirections les plus compatibles avec les questions d'adaptation. Et je vais, on peut passer à la prochaine, encore une fois. Et donc, un des objets fondamentaux de l'année 2 de notre programme, c'est de pouvoir outiller les établissements par des déplacements, typiquement, quand vous gérez un bâtiment dans une optique de rénovation, vous faites appel à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous, on est en train de proposer un outil d'assistance à maîtrise d'usage parce que pour essayer de répondre à des questions thermiques, climatiques, écologiques, non pas par l'ouvrage, l'obsession de l'investissement, du bâtimentaire, etc., qui engage les établissements sur 40 millions d'euros sur je ne sais pas combien d'années, mais travailler plutôt les usages et potentiellement la redirection des usages. Puis ensuite, un outil à destination des directions techniques, l'outil GER classiquement qui est utilisé, le revisiter sur un angle de contre manuel de direction technique où on évite le renouvellement, le rééquipement, la réparation à l'infini, enfin la réparation c'est bien, mais l'upgrade technologique systématique, d'une comptabilité financière vers une comptabilité soustractive où les établissements gèrent tout ce qu'ils ont réussi à faire en moins. Et donc redignifier les actions en moins, les actions soustractives et pas uniquement les projets et les questions additives et d'autres choses. Et donc pour conclure, simplement, je vous ai mis une photo de ce monsieur qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était le directeur stratégique, monsieur King Hubert, qui était le directeur stratégique de Shell à l'époque. Et lui, une fois, il est directeur de la prospective, pardon. Et une fois, il était géologue. Et une fois, il était venu en conseil d'administration. Il avait dit qu'est-ce que pour vous est Shell? Comment vous pouvez le définir? Et tout le monde disait bah, Shell, c'est une entreprise gigantesque, une multinationale qui ne mourra jamais. Et donc, il avait ensuite proposé l'autre graphique qui est juste avant, qui est de montrer qu'en fait, Shell, c'était une petite pointe, un petit point de détail dans toute une histoire extrêmement géologique, extrêmement longue avant et sûrement extrêmement longue après, et que finalement, nous sommes tous en fait héritiers d'une toute petite parenthèse fossile qui a permis à ce bâtiment d'être là, à ma présentation, d'être ici. Et quand on posait la question, justement, l'analogie de la station des skis avec n'importe quel établissement culturel, c'est que nous sommes tous, en fait, des stations de ski, simplement que notre neige n'est pas une vraie neige. Ici, effectivement, on se dit, mais elle est où la neige? Non, il n'y a pas de neige qui fond. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de fondre, sûrement sous nos pieds, et c'est peut-être par là que les choses peuvent se rediriger plus facilement. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup Diego pour cette présentation passionnante. On peut prendre une question parce qu'on est un tout petit peu en retard, mais pas trop. Est-ce que... Ah, je vois une question dans la salle. Vous pouvez aussi venir à ma rencontre, cher monsieur.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question qui reprend un peu un concept que nous présente souvent Lucie Marinier, c'est la jonction contradictoire. Je voulais savoir, dans tout ce qui est environnement culturel, institution, l'enjeu c'est quand même les publics. Et je prends l'exemple d'un musée. Dans le cadre d'un musée, il y a l'enjeu du confort du public qui est de plus en plus pressant dans l'accueil. Par exemple, aujourd'hui, on est bien content d'avoir de la clim ici. Je voulais savoir comment vous pensiez ça.
C'est discutable.
Oui, c'est discutable, mais voilà. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, pour faire venir, bah, il faut des toilettes, du wifi, la clim, etc. Je voulais savoir comment vous pensiez ça, parce que vous parliez tout à l'heure de la neige, effectivement, mais les gens ont envie qu'il y ait de la neige, justement. Donc, comment on joue là-dessus? Comment on réfléchit à ça? Merci.
Oui, alors justement, c'est un peu comme la réponse pour les stations de ski. Il y a beaucoup de stations de ski qui aujourd'hui disent « nous ne renoncerons pas à la neige ». Donc même si la neige disparaît, la neige réapparaîtra d'une manière ou d'une autre. On va l'artificialiser, on va même créer du ski indoor, etc. Donc c'est un peu la même logique. Et je retournerai la question plutôt en disant jusqu'à quel point on est prêt à justement se dire qu'on va faire grandir les choses ad vitam aeternam. Est-ce qu'on a les moyens de se permettre cela? Et moi, je doute foncièrement. Et la vraie, à mon avis, réponse, c'est qu'on est en train de passer d'une éthique. Et c'est pour ça que moi, je suis très optimiste écologiquement pour les prochaines années. Il y a eu un creux de la vague par le backlash écologique, parce que l'éthique environnementale ne marche plus. Mais une autre question environnementale qui est absolument essentielle, c'est qu'on est en train de découvrir que l'environnement, il est au centre des organisations, qu'il est dans le détroit d'Ormuz, qu'il est dans toutes ces questions-là, et qui font irruption, en fait, dans nos organisations. Donc moi, je pense que la question est plutôt de savoir comment on s'adapte à ces nouveaux bouleversements. On n'est plus là à se dire c'est quoi l'intérêt optimal du public ou des artistes ou autres.
Merci beaucoup.